Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Tech & Co, la quotidienne, avec ce soir sur le plateau Marion Moreau. Bonsoir Marion.
Bonsoir François et bonsoir à tous.
Marion qui est journaliste et fondatrice d'Hors Normes Média. À tes côtés, c'est Salim Nassur. Bonsoir. Salut Salim. Comment ça va?
Salut Salim.
Oui, salut.
Il y a des syllabes qui
se sont. C'était pas dans le bon ordre.
Salut, salut. Oui, salut. Mais c'est pas bon. Ça marche pas.
Ça fonctionne. Parce que c'est toi.
En tout cas, tout est allumé et tout va bien. Salim, qui est fondateur de Mars avec deux A et auparavant, était à un poste très important au sein de Google. Et tu as une vraie culture tech. C'est pour ça qu'on est très heureux de t'avoir régulièrement dans Tech & Co. Et bien sûr, Frédéric Simotel.
Bonsoir.
Bonsoir, Fred.
Bonsoir à tous.
Tout va bien?
Tout va bien. Écoute, on va aller en Asie, on va revenir aux États-Unis, on va passer par la France.
Exactement. Tu t'es remis de la défaite de notre Français face à Joko, là, à l'instant.
Ouais,
ah
ouais.
Là là, c'était terrible. Pendant la pub, là, je voyais mon Fred un petit peu stressé.
Non, on va crier.
Voilà.
Crier pour lui.
Écoute, voilà. Concentrons-nous, l'actu tech, avec cette news pour débuter concernant Jensen Huang, le patron charismatique de Nvidia, qui a annoncé aujourd'hui, eh bien, investir énormément d'argent à Taïwan. 10 à 15 fois plus qu'auparavant. Vous vous rendez compte? Là, on est sur des chiffres qui donnent le tournis. Jensen Huang a annoncé investir 150 milliards de dollars par an. À Taïwan. Pourquoi? Bah parce que, tout simplement, Taïwan, c'est the place to be au niveau des processeurs. Hein. On a TSMC qui est là. D'ailleurs, c'est intéressant parce que cette annonce a été faite par Jensen Huang à l'occasion du projet d'ouverture de cet immense immeuble qui va, pas fusionner, mais en tous les cas rapprocher à la fois TSMC et Nvidia. Mmh. C'est assez intéressant. Et donc, c'est les chiffres qui donnent le tournis, Fred.
Oui, bah c'est le cœur industriel mondial de l'IA. Alors il va y avoir 4000 recrutements. Et puis surtout, ce qu'il faut voir, c'est que il va vraiment faire de la R&D. Aujourd'hui, de la R&D, elle est plutôt aux États-Unis. Donc il veut pas en faire juste se rapprocher un peu de TSMC pour accélérer un peu la chaîne logistique. Il y a vraiment une volonté de faire de Taïwan un cœur industriel de l'IA, et pas seulement de faiseur, mais aussi de penseur, de concepteur. Donc c'est assez important. Effectivement, il va avoir son siège. Alors, c'est 4000 personnes. À terme, c'est plus de 10 000 emplois. Tu l'as dit, l'investissement, c'est 150 milliards.
Donc, oui, c'est à Taipei, hein, bien sûr.
Oui, c'est 150 milliards, mais par an.
Ouais, c'est
donc,
incroyable.
C'est quand même incroyable. Et alors, ce qui est aussi étonnant, surprenant, c'est que cette annonce, elle survient 10 jours après la visite de Jensen Huang dans toute la délégation avec Donald Trump. Ou ça, en Chine.
Ouais.
Donc il y a aussi une portée géopolitique en disant, voilà, quand on est alors il est né à Taïwan, hein, mais taïwano.
En tout cas, il a choisi son camp, hein, ça c'est clair.
Il a choisi son camp. On sent que là, il pose quand même un cœur industriel de l'IA. C'est pour dire finalement, voilà, je suis en train de créer un dôme là, à Taïwan. Donc les Chinois qui attendent 2027 avec impatience pour se dire,
on essaie de reprendre la main sur Taïwan.
Reprendre un peu la main, ça va être un peu plus compliqué.
Marion.
Oui, c'est vrai que tu as bien résumé les enjeux d'NVIDIA à Taïwan, mais c'est vrai que ça rend quand même compliqué, pour nuancer un petit peu l'info qui va découler sur bien d'autres investissements, on l'imagine, c'est que ça rend quand même Taïwan assez dépendant maintenant, parce qu'il y a beaucoup d'accords, contrairement à ce qu'on pense, entre la Chine et Taïwan. Notamment, si on regarde les coopérations scientifiques, elles sont très importantes et elles sont toujours importantes. Il n'y a pas eu de baisse, malgré le contexte de la Chine qui menace en tout cas qui préempte Taïwan comme une île qui lui appartient dans l'histoire. On voit que la baisse des coopérations scientifiques interpays ne baisse pas. En tout cas, ça ne se vérifie pas. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour Taïwan à terme, parce que là c'est vraiment une extension d'Nvidia hors sol, en dehors des États-Unis, et ça dicte quand même pas mal les choses pour l'industrie qui est en train de se construire, parce que on n'est pas tout à fait au bout quand même d'une industrie parfaite qui tourne bien, avec une chaîne de valeur qui est quand même très mondialisée encore. Et c'est vrai que l'épicentre doit être Taïwan, et le restera pour l'instant.
Oui.
Mais la couleur américaine va quand même peut-être un peu compliquer les relations.
Et puis ces relations intimes, j'allais dire, entre Nvidia et TSMC, c'est tout bénef pour Jensen Huang, parce qu'il a intérêt quand même de se mettre TSMC dans la poche. TSMC fournit...
Bien sûr.
tout l'écosystème tech aujourd'hui. Donc là, le fait de créer une espèce de bâtiment commun, d'affirmer en fait ces dépenses monstrueuses à Taipei avec TSMC, c'est quand même assez fort. Qu'est-ce que tu en penses, Salim ?
Justement, TSMC, c'est pour les GPU, mais derrière, il y a tout le pour les serveurs Nvidia, il y a Foxconn, il y a Quanta,
il y a Foxconn aussi, oui, t'as raison.
Enfin, il y a pas mal d'entreprises aussi derrière pour la partie serveur.
Salim.
Ça donne le tournis.
150 milliards par an, alors, c'est 10 fois plus, entre 10 et 15 fois plus que les années précédentes.
En fait, il y a trois trucs moi, qui m'interpellent. Le premier, ben, effectivement, sont les montants. Donc, je me souviens, à la grande époque du cloud, où on se disait, on va investir 30 milliards sur 3 ans, c'était fou. Là, lui, il dit, bon, 150 milliards en un an. Donc là, déjà, c'est pas la même échelle de valeur. La deuxième chose moi, qui m'interpelle, c'est que pour ceux qui n'avaient pas compris, on se rend vraiment compte qu'aujourd'hui, l'IA, en fait, c'est plus de l'infra que finalement les modèles, en fait. Tu vois, on parle d'énergie, on parle de puces, on va parler de mémoire. Donc aujourd'hui, on se rend bien compte que sans toute cette infrastructure, il n'y a pas d'IA. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Et du coup, on avait quelques modèles avant qui se battaient, les ChatGPT, Copilot, Gemini, etc. Et là, c'est encore pire parce qu'en fait, aujourd'hui, une fois que tu as un TSMC, que tu as un Nvidia, il n'y a pas grand monde en face. Et avant d'aller récupérer et se mettre en compétition face à ces gens-là, c'est presque impossible maintenant. Donc, ça réduit encore plus la valeur sur... on parle toujours de ceux qui ont les pelles, sur ceux qui ont les pelles, plutôt que ceux qui vont chercher l'or. Et enfin, le dernier point, c'est... et là, j'avoue que je ne suis pas stratège géopolitique. Je trouve que le move est intéressant et en même temps étonnant. Parce qu'à un moment, il y avait TSMC qui avait mis une entreprise aux États-Unis sous l'ordre de Trump, pour essayer de délocaliser des choses de Taïwan.
Et pour voilà. Aussi adoucir un petit peu on va dire la posture de Donald Trump.
Sur les tarifs, mais pas que, parce qu'à un moment, on sait très bien que Taïwan, c'est une zone à risque.
Oui.
Donc si demain,
regarde, zone à risque. Nvidia, zone à risque, mais il investit 150 milliards par an.
C'est pour ça que c'est là où me dépasse. C'est que je me dis, tu mets 150 milliards dans une zone qui potentiellement peut repasser demain à la Chine.
C'est vrai.
C'est là où je suis un peu perdu.
Au moment où Trump dit, il faut tout investir aux États-Unis.
Exactement.
C'est ça qu'il faut. Et je pense que dans ce voyage-là, il a dû se passer quelque
chose. Il y a eu un petit bras de fer.
Mais il y a eu quelque chose. Parce que pour revenir là et mettre 150. Enfin, Trump, quand il entend ça, il entend le gars qu'il a invité. Enfin, il l'a invité au dernier moment. On se rappelle un peu, c'était un peu épique la façon dont Jensen Wang dit j'ai été un peu oublié et puis hop du
puis coup, c'est étonnant parce qu'il est pas resté très longtemps en fait il a fait ce qu'il devait faire de manière protocolaire et il est vite parti aller manger des nouilles dans les rues c'était assez étonnant, il y avait plein de gens qui
lui,
suivaient.
Et puis lui, ce qu'il voudrait, c'est que les barrières douanières tombent parce que pour qu'ils puissent davantage vendre en Chine. Donc à la limite les Chinois, il a dû leur dire c'est à lui qu'il faut en pointant Trump du doigt, donc c'était plus s'entretenir avec Trump. Et là quand on entend toutes ces déclarations incroyables de Trump, toujours à dire c'est les US, US first, et mettez nos milliards là-bas. Et là, il a l'une des entreprises les plus florissantes, les plus en vue, tout ce qu'on connaît de Nvidia, qui lui fait pas un bras d'honneur, mais qui lui dit
c'est ça que moi, tu vois, qui m'interpelle.
Ouais,
tu vois, il s'est passé un truc. Et en fait, c'est pour ça que je dis, je suis pas un stratège pour le coup dans ces sujets-là, mais je me dis que dans ce voyage, il s'est effectivement passé quelque chose, voire peut-être même un passage de relais. Où, à un moment, là, les États-Unis ont dit « Ok, à la Chine, vous avez gagné, en fait. » Dans le sens où, quand même, en fait, tu ne mettrais pas une entreprise américaine avec autant de trucs. Aujourd'hui, s'il y a un conflit à Taïwan, tu sais que ce n'est pas les États-Unis qui gagnent.
C'est politique, justement.
Oui, mais tu sais que ce n'est pas les États-Unis
qui gagnent. Il marginalise la Chine.
Le message, il
est
à deux bandes.
Il dit « Voilà, je vais être une tête de pont. » américano-taïwanaise là dans ce coin-là de la Chine, et je marginalise partiellement la Chine sur des technologies très critiques.
Tu peux pas
après
demain la Chine prend Taïwan, qu'est-ce qui se passe? C'est pas les États-Unis qui vont les en empêcher.
Mais il y a un message à deux bandes, et le voyage évidemment auquel il devait pas participer, finalement il est monté en dernière minute dans l'Air Force One, président d'Nvidia.
Je vois
un message à deux bandes, c'est que en gros c'est un message d'abord commercial très fort d'une alliance beaucoup plus resserrée avec TSMC, dont Nvidia dépend, parce que je vous rappelle quand même que la capitalisation boursière, qui est maintenant une des premières au monde, doit rassurer tous les gens qui investissent dans cette pépite. Et donc TSMC, c'est évidemment l'entreprise dont Nvidia dépend, parce qu'on est encore dans les dépendances. Mmh. Et le deuxième message, il est hautement politique, c'est qu'il n'est pas question que la Chine demain militarise Taïwan davantage, parce que sinon c'est aux États-Unis qu'elle aura affaire. Bah, donc c'est pour moi un message à deux.
En fait, tu vois, Nvidia Donald Trump a dit qu'il ne fournirait pas d'armes à Taïwan au cas où il y aurait une attaque de la Chine.
Voilà, oui, donc c'est pour ça.
Donc il se désolidarise
exactement. Mais le bijou de famille TSMC, que tout le monde lorgne, la Chine en premier, même si elle a des concurrents, il ne faut pas l'oublier. Il y a quand même des entreprises chinoises de semi-conducteurs, mais elles n'arrivent pas à produire le nanomètre qu'elles cherchent à produire. Mais ça viendra peut-être.
Mais tu fais bien de le rappeler, hein. C'est exactement ça, moi, qui m'interpelle. C'est qu'en effet, pour moi, Trump sur Taïwan a capitulé quand il a dit je n'y vais pas.
Parce en tout cas, il a clarifié la situation. Il n'a peut-être pas capitulé parce que c'était peut-être la position, on va dire, politique des États-Unis depuis longtemps là-dessus.
Voilà, ça a été très clair quand même sur le dernier voyage. Les Chinois, ils ont dit on peut parler de tout, mais commence pas à parler de Taïwan.
Ouais, ouais.
C'était le message clair de Trump.
Oui, c'est dépendance croissante de l'Occident à Taïwan. Voilà, là, on a compris clairement le message. Et pour moi, il y a un signal politique qui est donné à Pékin.
Bien sûr.
C'est ça. Taïwan.
Mais donc, la guerre n'est pas déclarée, mais elle est une manche pour les États-Unis aujourd'hui.
Alors là, je vois pas du tout ça comme ça. Mais bon, moi, c'est pas mon domaine. Mais je vois pas ça comme une manche.
Est-ce que c'est pas aussi
américain qui aujourd'hui fait son siège à quelques encablures du siège de TSMC? Bien sûr que c'est extrêmement puissant comme guerre commerciale.
Et ça leur apporte quoi, concrètement?
D'être au plus près de ceux qui fabriquent les bijoux de famille toute l'industrie.
Ils n'ont pas besoin d'être prêts, en réalité.
Bien sûr que oui.
Tu n'as pas besoin, et jusqu'à présent, ils n'ont pas eu besoin. Pourtant, ils sont toujours en domination sur ces GPU. Tu n'as pas besoin d'être dans l'usine d'à côté.
Après, est-ce que Jensen Yang peut inverser la vapeur? C'est-à-dire qu'en en donnant tous ces investissements, en lançant tous ces investissements à Taïwan, est-ce que ça peut aussi ralentir les velléités de la Chine d'envahir en fait Taïwan? Parce que je sais pas, est-ce que c'est pas aussi une fuite en avant de la part de Nvidia?
Quelque part, il a déjà réinvesti la vapeur entre le logiciel et le hardware. Il remet le hardware au cœur de tout ça, hein, parce qu'il y a les puces, il y a les data centers derrière. Il va y avoir, parce qu'il le dit, il faut des infrastructures énergétiques derrière.
Bien sûr.
Il y a tout le côté packaging, hein, parce que la puce c'est bien, mais il faut la mettre dans Blackwell, il faut la mettre dans les systèmes Hopper et tout ça. Donc là aussi, il consolide un peu tout ça. Il montre que le hardware est encore bien présent, puis lui ça l'arrange parce que c'est la valorisation de son entreprise. Pour moi, il met un dôme au-dessus de la Taïwan.
Ça s'appelle le bouclier de silicium là-bas, dans le jargon.
Bon, qui tient pas face à l'armée chinoise, mais bon, ça c'est un autre sujet.
Mais les Chinois, c'est des commerçants, c'est pas des.
On verra.
Oui, mais bon, on verra. Il y a quand même des messages de la part des plus hautes instances chinoises qui disent un jour ou l'autre, on va reprendre Taïwan.
C'est ça, si tu veux. On sent
que c'est au travers de la gorge.
Surtout sur Xi Jinping, qui il doit asseoir, montrer que son règne a donné quelques.
Bon, en tout cas, ça va être évidemment très intéressant de suivre tout ça, parce que si un jour la Chine envahit Taïwan, les conséquences.
Pour l'instant, ce que fait la Chine, c'est qu'elle rend attractive sa Chine et qu'elle dit aux Taïwanais, et ça c'est assez documenté, venez travailler en Chine, c'est bien mieux qu'à Taïwan.
Mais
c'est risqué.
Les Taïwanais ne veulent pas.
Il y en a beaucoup qui y vont.
Oui, mais le pouvoir en place, n'est pas pro chinois, et pas pro Pékin, si tu veux. Donc, c'est un sujet.
C'est assez complexe.
Évidemment complexe. On verra comment tout ça évolue. On reste dans, évidemment, ce business des puces. On en avait parlé il y a quelques jours de cela. Les résultats records de Samsung, mais aussi de SK Hynix. Je ne sais pas si vous connaissez cette boîte qui est aussi très impressionnante, qui fabrique des processeurs. Évidemment pour l'IA, qui a explosé sa valo, qui dépasse 1000 milliards de dollars, tout comme d'ailleurs Samsung. Je voulais qu'on s'arrête sur la conséquence de la menace de grève qu'avaient brandi en quelque sorte les collaborateurs de Samsung Electronics. 78 000 personnes quand même, hein, oui. qui avaient dit, si on n'est pas intéressé aux résultats faramineux que vous êtes en train de faire, eh ben, on arrête tout, on ferme les usines. Bon, évidemment, branle-bas de combat chez Samsung, on en avait parlé la semaine dernière. Ils ont réussi quand même à négocier une prime, Fred, monstrueuse de 280.
Oui. Les, ceux qui auront le plus, ouais, voilà, les
voilà,
plus
c'est...
Enfin, oui, c'est en moyenne. Il y aura une échelle, mais les ceux qui vont toucher le plus auront une prime, voilà, d'environ
290 000 euros.
Voilà, 290 000 euros.
Pas mal.
Ce qui est quand
plus
pas
une
mal,
augmentation mais... de quelques pourcents, enfin, etc.
Et puis le petit signal envoyé à l'avenir, parce que si on continue à monter, si Samsung passe à 2 000 milliards de valorisation, bah, les prochaines renégocieront aussi une petite rallonge. Non, c'est...
Donc on voit que Samsung, la direction de Samsung a cédé malgré tout. Hein? Alors, est-ce que c'est une décision du gouvernement sud-coréen ou est-ce qu'ils étaient un peu au pied du mur et avaient vraiment peur de cette menace de grève qui aurait mis par terre, en fait, toute la production de puces hein, au niveau, chez Samsung ?
Moi, ce que je vois là-dedans, c'est souvent, on se dit, tiens, quand on est chez Nvidia, on travaille chez Nvidia, on est un gagnant boursier. C'est-à-dire, si on reçoit des actions régulièrement, hop. Je trouve qu'il y a on se rend compte que chez Samsung, c'est pas seulement des gagnants boursiers, mais c'est vraiment, les salariés deviennent une élite stratégique, quoi. On a vraiment dit, ben oui, ces gens-là, il faut pas qu'on leur déplaise. Alors, en plus, les répercussions, on en parle pour Samsung, mais ça aurait été des répercussions mondiales. On en a parlé plusieurs fois, on peut aller écouter tous nos débats en replay. Dessus, ouais. On a dit que voilà, l'économie qui, déjà, l'environnement géopolitique est un peu compliqué, mais là, ça aurait donné un coup de poing dans tout ça. L'IA change aussi le rapport social. Je ne sais pas si dans d'autres époques, dire on fait grève et il n'y aura pas de puces. Là, aujourd'hui, on voit que l'IA, c'est tellement. On ne peut pas se permettre, parce qu'il y a eu des grandes grèves déjà en Corée et même chez Samsung. On se rend compte que l'IA, on ne peut pas se permettre.
Bon, quand les cheminots de la SNCF se mettent grève lors des grands départs en vacances, il y a une oreille plutôt attentive de la direction, mais c'est pas le même niveau. Je suis d'accord.
Et puis quelque part,
ils ont les mêmes niveaux de rémunération.
Et quelque part, et là, faudrait en parler avec des gens qui connaissent bien ce peuple de Corée du Sud, c'est que ça devient un enjeu, un débat de société. Quoi, l'IA devient un débat de société. Enfin, je trouve que ça nous apprend plusieurs choses sur la façon de fonctionner des Coréens du Sud.
Ah, c'est marrant que tu dises des Coréens du Sud, parce que pour moi, ça dépasse la Corée, en fait. C'est ce qui va se passer dans tous les pays. En fait, là, pour moi, au-delà de Samsung, la question, c'est plus de se dire, comment tu redistribues la valeur? Okay. Est-ce qu'à un moment, tu as une entreprise qui fait d'énormes profits? C'est quand même 750% de croissance en un an sur les bénéfices, hein, Samsung. Donc, est-ce qu'à un moment, toi, parce qu'en plus, tu parlais d'NVIDIA, dans les entreprises américaines, dans ce type d'entreprise, souvent, tu vas avoir des stocks. Et forcément, plus il y a de la croissance de l'entreprise, plus tu vas avoir des actions. Mm-hmm. Tu vois, dans des entreprises coréennes, pas forcément toujours. Tu vois. Donc, c'est aussi à un moment, tu te dis, tu vois ton entreprise qui gagne beaucoup. Et toi, tu as le même salaire. Donc, ça repose des questions même au-delà de la Corée.
Mais tu sais qu'ils envisagent même un dividende national.
Mais bien sûr,
que toute la population pourrait, pas seulement les 70 000, pas 300 000 euros chacun, mais oui. Que certains touchent 1 000 euros par ci.
Parce qu'aujourd'hui, ça représente une grande partie du PIB qui est fait aux exportations.
Réclamé auprès des LVMH en France.
Oui, mais regarde, c'était la même chose qu'il y avait eu, c'est la même chose qu'il y avait eu au début de l'IA, si tu veux, avec la notion de revenu universel. Mm-hmm. À un moment, si tu crées énormément de valeur, il y a quelques entreprises qui gagnent énormément de valeur. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont gagner moins. Comment tu fais en sorte de redistribuer cette valeur? Donc c'est pour ça que pour moi, ça dépasse la Corée du Sud. Ça va jusqu'à c'est quoi finalement une entreprise moderne aujourd'hui? Et jusqu'à quel point un collaborateur, un salarié est prêt à se dire bah, je vois que moi, l'inflation, elle est là et j'ai pas forcément un. Et attention, je suis pas ni à droite ni à gauche.
Je fais pas de politique là.
Pardon?
Moi, pour moi, ça reste cantonné en Corée du Sud.
Non.
Ah bah non.
Non, non.
Bah non, t'as déjà ces débats-là aux États-Unis.
Je suis en train d'enquêter là-dessus en ce moment.
Ah oui. Ah non, non, mais carrément pas. Pour moi, mais c'est évident. Tu vois une société, je ne parle pas d'une entreprise, d'une société globale.
Pour ce cas-là, après qu'il y ait un dividende réparti valeur, là, d'accord.
Aux États-Unis, ils parlent déjà d'AI dividend.
Oui. Non, mais ça, on en parle depuis 10 ans.
Hein. Oui, mais c'est là, concret.
Regarde, si tu prends OpenAI, donc avant OpenAI, donc il y a toujours d'ailleurs, il y a un truc qui s'appelle OpenLab. OpenLab, c'est même Sam Altman qui l'avait lancé en 2016, je crois, et c'était une grande étude sur le revenu universel.
Oui, oui, non, mais ça, c'était lié à la destruction potentielle des emplois, lié à l'émergence de
la technologie. Oui, mais AI Dividend, c'est la même chose, si tu veux. C'est-à-dire qu'à un moment, on crée de la richesse.
On parle des profits générés par le fournisseur IA lui-même.
Bah, c'est de ça dont il parle sur OpenAI. C'est-à-dire qu'à un moment, on va générer tellement de richesses Qu'est-ce qu'on fait de cette richesse, sachant qu'il y a des gens qui vont...
Non, la question d'Open Lab, de Sam Altman, qui avait monté d'ailleurs une entreprise philanthropique au départ, quelle blague, c'était de dire, comme c'est schumpeterien et qu'OpenAI va détruire des emplois, et parce que les autres vont se créer, et ça va détruire ces emplois, il va y avoir une colère sociale importante, c'est normal, puisqu'on va détruire des jobs quand même, ça va toucher à la dignité des gens, au niveau de vie, donc ça va créer de la colère. Et donc pour ça, il faut qu'on puisse être faire, comme on dit en anglais, et dire si la destruction d'emplois elle est estimée à temps, alors il faut mettre en place effectivement un revenu universel. Après, ça a été assez
difficile. C'est Elon Musk aussi qui défendait ça.
Bien sûr.
Mais là, c'est plus sur une question
entre ça et AI Dividend, c'est la même chose en fait.
Ce qu'ils appellent AI Dividend, là, c'est les syndicats qui mettent en place cette idée du AI Dividend, qui est très économiquement basique, en fait. C'est juste de redistribuer, comme tu le disais bien, redistribuons les profits, en fait, à l'ensemble de l'entreprise. C'est pas la même chose que compensons la perte d'emploi. Tu vois la différence?
Si, c'est la même chose, en fait. C'est la même chose.
C'est là où je dis que moi, pour l'entreprise, ça reste purement coréen. Et après, pour l'emploi, par contre, je suis d'accord, là, c'est au niveau... pour la société, c'est au niveau mondial. C'est là où je dis qu'il y avait...
Pour moi, pourquoi je te dis que c'est la même chose? Parce qu'en fait, à un moment, comment tu vas faire plus de profit? Parce que tu vas être beaucoup plus productif. Mais aussi, tu vas être plus productif parce que tu vas te séparer aussi d'un certain nombre de c'est triste à dire, mais de lignes qui sont coûteuses dans une entreprise. Et ce sont des emplois. Donc c'est aussi ça qui te permet d'améliorer ton EBITDA quand tu fais une revue comptable de ta boîte, c'est ça. C'est rien d'autre. Donc la création de valeur, elle n'est pas que parce que je crée plus, c'est aussi parce que je réduis mes coûts.
Ouais. Mais derrière ce sujet, il y a des sujets intéressants on en reparlera peut-être, mais il y a beaucoup de sociologues dans le monde entier qui est de chercheurs qui se posent la question d'une nouvelle lutte des classes. Parce qu'en fait, le sujet derrière Samsung, c'est pas tellement de redistribuer correctement la richesse et de effectivement compenser une perte, etc. C'est un peu plus profond dans certaines zones du monde où on parle de tâches pénibles, on parle des data workers, on parle de la pénibilité de certaines tâches IA, voire même de choses plus que pénibles. Et en fait, il y a des recherches qui sont publiées là récemment qui disent qu'en fait la question de l'IA va être aussi la question de une question purement sociale. Alors on ne dit pas qu'ils disent pas qu'il va y avoir des choix. Il n'y a pas de prédiction et de futurologie, mais il y a une vraie question qui se pose un peu partout, liée aux data centers, liée aux data workers, liée au montant pharaonique que tout le monde entend, dont tout le monde entend parler. Et donc il y a des questions potentielles qui se posent socialement assez importantes.
Mais alors c'est intéressant parce que je suis pas tout à fait tout le temps d'accord avec Elon Musk, mais ça fait un moment qu'il a ce discours-là. Il dit quand l'IA tournera à plein régime et que les robots commenceront véritablement à arriver, il y aura des destructions d'emplois majeures. Il va falloir trouver un système pour repartager les richesses parce que autrement, en fait, on va se retrouver avec des millions de gens qui n'auront plus de maison, plus de rémunération,
et
plus
des,
rien.
Et des donc, robots qui produiront pour personne.
Voilà, il va falloir que ces machines... Alors lui, c'est assez intéressant ce qu'il dit. Il dit que ces machines vont créer de la valeur pour les humains qui ne travailleront pas, en fait.
Oui, mais il a tout intérêt parce qu'il amène quelque part un mini cataclysme quand même d'un point de vue social à aussi apporter la solution.
Bien sûr,
Et même les autres fondateurs aussi des autres fondateurs.
Bien sûr, mais c'est plutôt intéressant qu'il se penche sur ce sujet.
Bien sûr.
Quand même, parce qu'il pourrait très bien dire, écoutez, vous vous débrouillez, on verra ce que ça va faire. Mais là, il y a quand même une certaine responsabilité. On verra si si ça arrive, parce que finalement Sam Altman a dit l'inverse de ce qu'il avait dit récemment.
Il a tempéré.
Il dit je me suis trompé. Je pensais que en fait l'IA allait détruire énormément d'emplois. Finalement, alors je sais plus si c'est à court terme ou à moyen terme. On le voit pas comme on l'avait imaginé.
Moi je trouve que c'est mal interprété ce qu'il a dit. Et peut-être que je me trompe. Mais pour moi il a pas dit l'inverse. Il a tempéré. C'est-à-dire qu'il pour lui ça arrivait. Il pensait que ça arriverait plus vite. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Pourquoi aussi aujourd'hui, et je le vois, moi je suis tous les jours dans les entreprises, on me pose encore la question là ce matin, est-ce que tu penses que les comités de direction dans les entreprises, elles ont bien compris la portée de l'IA? La réalité, non, c'est parce qu'aujourd'hui, quand tu te retrouves dans une entreprise, au mieux on a déployé un peu de ChatGPT ou de Copilot, et c'est pour faire des emails. Donc forcément, si demain tu fais mieux tes emails, c'est pas ça qui va apporter de la valeur dans ton entreprise, donc c'est pas ça qui va à un moment mettre à risque un certain nombre de jobs. Par contre, si tu utilises véritablement comme c'est fait, soit tu vas, et tu vas, pour moi, tu vas avoir deux types d'entreprises, soit celles qui vont se dire, bah, j'utilise bien, mais je vais quand même garder les gens que j'ai parce qu'ils sont bons et ils vont être encore meilleurs grâce à l'IA. Et ceux qui vont se dire, bah, j'ai des collaborateurs qui n'ont pas forcément envie de bosser, qui ne vont pas forcément être passionnés par ce qu'ils font, bah, plutôt que les embêter quelque part à faire un truc qu'ils n'ont pas envie de faire, ils vont rester chez eux et on va mettre une IA à la place et eux, ils auront un revenu universel. Mais ça, pour moi, je n'arrive même pas à comprendre comment on n'arrive pas à le voir, en fait, tu vois. Ni au niveau des entreprises, ni au niveau des politiques. C'est une évidence, quand tu sais bien utiliser l'IA, que, ben, à moins, tu as des vrais gains qui sont phénoménales.
Mais cette révolution, elle est très rapide.
Oui, mais c'est pas, parce que, c'est, en fait, ce que dit Sam Altman, de moi, de la façon dont je l'interprète, c'est que ça n'est pas allé aussi vite. Mais parce que, quand tu regardes, parce que lui, il est dans la Silicon Valley depuis toujours.
Oui, il a le nez dedans,
mais voilà. Il ne sait pas ce que c'est de bosser dans une corp, dans un grand groupe,
pour changer. Il y a quand même une inertie.
Voilà, pour changer la couleur du canapé, ça va prendre trois ans, peut-être. Tu vois,
mais même sans être dans une grande corp, je reviens sur l'audition dont tu parlais de Arthur Mensch par la mission parlementaire. Il le dit à un moment, il dit à un développeur chez Mistral, alors qu'il ne développe plus, qu'il ne crée plus une ligne de code, etc. Enfin, ça, c'est un autre débat. Mais enfin, il dit, il est productif, il va 10 fois, 20 fois plus vite. Par contre, dès qu'ils sont en équipe, eh ben là, la productivité, elle chute lourdement parce que c'est la communication, parce que, voilà, il faut que chacun interagisse avec les uns avec les autres. Donc, c'est là où on voit que, oui, individuellement, on a l'impression on gagne en productivité individuellement, mais on ne sait pas trop la répercuter au niveau de l'entreprise. Et puis, alors, quand on bosse en équipe, c'était encore plus compliqué.
Bah, moi, c'est mon point depuis toujours, c'est de dire, à un moment, si tu as des grosses ruptures technologiques et si tu veux faire de l'adoption dans les entreprises, t'es obligé de bosser sur les compétences humaines, les soft skills des gens. Et tu dis communication. Il n'y a pas que ça, il y a la collaboration, il y a plein de choses qui font que ça prend ou ça prend. Mmh. Et aujourd'hui, l'adoption de l'IA, aujourd'hui, ça ne prend pas dans les entreprises, en tout cas, pas suffisamment vite. Donc, on ne peut pas dire que parce que ça ne prend pas, l'IA n'est pas suffisamment puissante. On peut juste dire qu'on s'y est mal pris et qu'il faut s'y reprendre un peu mieux.
On va arrêter sur ce sujet. Tiens, puisqu'on parle d'IA, sachez que demain dans Tech & Co, invité exceptionnel, je recevrai l'un des cofondateurs de Mistral, Timothée Lacroix, qui est le CTO en fait de Mistral. Longue interview que nous vous diffusons demain soir pour évoquer toute l'actualité de Mistral, qui est quand même assez riche.
Qui fait son grand round demain.
Oui, voilà.
Avec Carousel du Louvre à Paris.
Summit,
avec des grands patrons.
Parrainé par Mistral, etc. Et c'est à cette occasion d'ailleurs que sera réalisée cette interview depuis le Carousel du Louvre. On enchaîne tout de suite avec toujours l'IA, mais cette fois-ci plus grand public, qui était très attendu, c'est celle d'Amazon qui veut donner une deuxième vie à ses enceintes connectées. Peut-être avez-vous déjà suivi cette action, on l'a abordé un petit peu hier. Car après les États-Unis, il y a quelques mois, le groupe a lancé hier en France Alexa Plus, cette mise à jour qui met de l'IA générative dans ces petits objets qui avaient clairement besoin d'un petit coup de frais, c'est le moins qu'on puisse dire. Anthony Morel nous en parlait, c'était ce matin dans Good Morning Business.
C'est vraiment l'histoire de faire renaître un produit qui a fait perdre beaucoup d'argent à Amazon, parce que la première génération d'enceintes connectées, qui a été très à la mode il y a quelques années, elle a été vraiment remisée au placard, notamment à cause de ses limitations techniques. Si vous les avez déjà testées, vous savez qu'on peut pas enchaîner deux phrases, qu'il y a des problèmes de latence, et que ça, à l'ère de l'IA générative, ça devenait complètement impossible. Et donc là, l'idée avec Alexa Plus, c'est d'injecter justement ces nouvelles générations d'IA dans les enceintes connectées. Donc en l'occurrence, c'est du Anthropic et aussi du Mistral. Mistral pourquoi ? Parce que c'est l'IA qui parle le mieux français, donc pour le marché français c'est intéressant, et donc ça permet d'avoir un dialogue en langage naturel avec ces enceintes connectées et de leur donner aussi de nouveaux types de fonctionnalités, notamment des fonctionnalités agentiques, c'est-à-dire l'IA qui va pouvoir permettre à ces enceintes de faire des choses dans la vie réelle, de commander une pizza, de commander, je sais pas, de réserver un restaurant par exemple, ou aussi de se connecter à tout l'écosystème de la maison, c'est-à-dire par exemple à la télé on peut lui demander, je me souviens plus de ce film où on revit toujours la même journée et il va me lancer automatiquement le film correspondant évidemment que vous avez tous que vous connaissez tous. Donc là la mise à jour c'est une mise à jour logicielle qui est disponible sur la plupart des modèles, elle est gratuite. En revanche, il y a un petit changement de modèle économique parce que c'est seulement pour les abonnés Amazon Prime, pour les autres il faudra payer un abonnement de 20€ par mois. C'est une refonte totale donc qui doit permettre de donner une nouvelle vie à ces appareils et de rester compétitif face à Google qui fait exactement la même chose, notamment en injectant Gemini dans ses enceintes Google Home.
Voilà, on passe véritablement à une autre ère de ces assistants vocaux qui existent depuis de nombreuses années, hein. Que ce soit Siri, Google Home, tu as bien connu puisque tu étais
j'en ai plein à la maison.
Chez Google, à l'époque de Google Home, il y avait eu énormément d'argent investi. C'était la guerre d'ailleurs entre Google et Amazon. Peut-être un peu moins Apple qui était un peu en retrait, mais c'est vrai que moi je me souviens de cette bataille des enceintes connectées entre Google et Amazon qui était vendue, j'imagine, à perte.
Mais bon, inondé
le marché. Oui, on les donnait, ou alors
au-dessus de 50 euros
ouais,
d'achat,
un téléphone, on t'offrait une enceinte, etc., etc. Pour, en fait, voilà, qu'on choisisse notre camp entre Google Home et Alexa. Google Home est déjà passé à Gemini, mais n'a pas fait. Enfin, Google n'a pas véritablement communiqué énormément là-dessus. Franchement, moi, je l'ai pas vu arriver. Alors peut-être qu'ils attendent d'avoir une, comment dirais-je, quelque chose qui marche vraiment bien pour communiquer officiellement. Mais donc là, l'actu, c'est Alexa Plus qui a été lancé hier en France. Et je voulais avoir votre avis là-dessus. Moi, je l'ai testé, c'est quand même assez impressionnant. Le fait de se dire, bah tiens, commander, réserver une table d'un resto sans avoir à prendre son téléphone, c'est quand même une petite révolution. Et ça marche. Ça marche. Et il y a plein d'autres innovations comme ça. Il me tarde de pouvoir le tester, véritablement. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, mais en plus, visiblement, l'assistant conversationnel... Alors, tu nous as dit qu'il y avait un petit délai de latence encore.
Oui, voilà. Il y a encore 4 à 5 secondes de latence à partir du moment où vous posez votre question, où vous avez la réponse.
Mais par contre, par rapport... J'ai écouté l'interview d'hier soir du patron d'Alexa Plus, ici même. C'est vrai que si on devient un assistant conversationnel, qui apprend nous aussi, qui personnalise... Enfin, il donnait plusieurs exemples. On demande à Alexa de préparer des menus pour le soir. Elle va se souvenir que dans la famille, il y en a un qui est végétarien, donc elle va préparer en conséquence. Bon, il y a l'intégration de Mistral aussi, parce que ça aussi, on avait un gros souci quand même avec Alexa, c'est très américano-américain dans la façon de répondre, même quand on lui posait des questions historiques, hein, qui a inventé l'aviation, choses comme ça.
Ouais, c'était un peu...
On oublie nos faucheurs de Marguerite, on partait directement avec les frères Wright, etc. Et même pour l'ordinateur, enfin, il y a plein de choses qui n'allaient pas. Là, donc, ils vont utiliser Mistral pour justement avoir...
En fait, ils ont francisé Alexa Plus grâce au LLM de Mistral.
Et donc derrière, on voit que pour Mistral déjà c'est bien, ça montre que ça devient un vrai actif stratégique. Et puis là, je pense qu'il réanime un peu la bataille de la maison connectée.
Alors, par rapport à Google Home,
est-ce que j'ai pas testé.
Tu as toujours choisi ton. Là, tu es toujours Google ou serais capable de passer à Alexa?
C'est la cave au grenier. Je ne sais pas combien il y a d'objets connectés Google. Non, je suis très Google. Après, je ne sais pas parce que j'aime pas Amazon. Donc, je ne connais pas trop Alexa. Mais ce qui est assez rigolo, moi, ce que je vois là-dedans, avant de répondre à ta question, c'est. Tu te rends compte qu'il y a 10 ans à chaque fois. C'est rigolo, hein. Sur chacune des technos, il y a 10 ans entre le moment où on commence et ça commence à être bien et tout le monde l'utilise. Tu vois, là, on parle de ça, mais les lunettes, on parlait des méta, des machins. Pareil, il y avait les Google Glass il y a 10 ans. La voiture autonome, c'est pareil, ça commence à arriver. Et là, sur ces trucs-là, c'est bien, mais rien de neuf sous le soleil parce que c'était vraiment les plans qu'il y avait à l'époque, à l'époque où je bossais chez Google. C'est juste plus fluide, si tu veux. Mais l'intention a toujours été là. Et l'intention, au-delà du gadget, c'est de se dire que comment j'arrive à dépasser le browser, où à un moment, tu as un Google ou un Alexa avec ses commandes dans ton site Amazon, comment j'arrive à avoir un peu plus d'emprise sur l'utilisateur. Parce que là, une fois qu'il est dans la maison, tu connais toutes les habitudes, à quelle heure rentre la personne, à quelle heure il part, à quelle heure il éteint la lumière, à quelle heure, tu vois, à quelle heure il passe ses commandes, qu'est-ce qu'il regarde à la télé. C'est énorme. Donc, évidemment qu'il y a une grosse guerre là-dessus pour se dire qui est-ce qui va rentrer dans la maison et qui va pas juste te connaître toi, mais ta famille, tes amis, etc. Donc, c'est assez intéressant. Après, là.
Parce qu'ils ont beaucoup perdu d'argent avec tout ça.
Oui, mais tu perds de l'argent pour en gagner derrière.
Ouais.
C'est toujours pareil.
Mais
s'appelle un investissement.
Au bout de 10 ans, surtout tu dois commencer à tirer la langue, non?
Tu vois, on parlait tout à l'heure de...
Champion de la dette,
je sais plus
Amazon.
Si c'était off ou
Amazon,
pas off. On parlait tout à l'heure de la France versus les États-Unis. C'est le sujet, c'est qu'à un moment, il faut savoir, c'est pas perdre de l'argent, c'est investir pour gagner un moment. Mais une fois, aujourd'hui, une fois que tu as dit ça, c'est quoi le Français ou l'Européen qui vient dans la maison connectée? Il n'y en a pas. Donc, ils ont peut-être investi ou perdu, ça dépend comment tu te places. Mais aujourd'hui, ça va être Amazon ou Google. Donc, je n'ai pas testé Alexa.
Et puis, il y a Siri qui...
Voilà.
Ouais. Apple se prépare aussi à rendre intelligent son Siri. Ça va être annoncé dans quelques jours à la WWDC.
C'était le plan de survie. Hein. Il faut que ça marche.
Oui.
Sinon,
oui, mais ça va marcher un moment. Tu vois bien, déjà, quand tu le fais avec ton LLM de base, si tu le fais avec un chat GPT, tu as déjà une vraie conversation. Donc là, ils sont en train de passer. Google, d'ailleurs, a basculé aussi sur Gemini, là, sur Google Home. Et l'interaction est plus fluide. Je trouve que ce n'est pas encore ça. Donc Alexa, je n'ai pas testé. Mais qu'en penses-tu, toi ?
Tu as testé tout ça, toi,
Marion ? J'ai pas testé. J'en ai testé il y a longtemps, tu vois, les premiers devices, effectivement. Et c'est vrai que c'est bluffant. C'est une extension interface, hein, en fait. Hein, tu connais ça mieux que nous. Mais c'est une extension stratégique parce qu'effectivement, c'est la domotique, c'est maintenant l'IA, c'est la captation de données qui est quand même à haute valeur ajoutée. Très haute valeur ajoutée. Non, la question que je me pose, et c'est effectivement une extension aussi du domaine de la lutte entre grandes puissances, mais la question que je me pose, c'est le deal Mistral AI là-dedans, et des 70 LLM, je crois qu'ils sont intégrés, 70 oui. LLM dans le...
Alors, il y a le LLM maison d'Amazon qui est Nova, ouais. Il y a aussi Anthropic. Bon, Amazon a investi beaucoup d'argent.
Pour l'e-commerce.
Exactement. Et en fait, à partir du moment où tu poses ta question, suivant ta requête, c'est oui. En fait, Amazon va choisir le bon LLM pour te répondre.
Oui, j'ai compris l'usage, c'était plus côté business pour Mistral AI. Que récupère Mistral AI à être intégré dans les Alexa Plus ? C'était plus la question que je me posais.
Ça a dû être un contrat de prestation. Oui. On posera la question demain à notre Timothée Lacroix, tiens, ça va être intéressant.
C'est intéressant d'entendre sa réponse.
Ouais, je suis pas sûr que j'arrive à avoir une réponse concrète. Mais on essaiera, écoutez. On va mouiller la chemise.
J'écouterai.
On va essayer.
Ce qui est quand même intéressant, juste un dernier mot sur Alexa et Mistral en ligne d'urgence, c'est qu'on passe quand même d'une plateforme qui était plutôt fermée à une plateforme assez ouverte. Alors, au-delà des partenaires, j'entends vraiment avec les LLM à l'intérieur, on a Mistral qui s'impose comme un actif stratégique européen important, donc ça, c'est plutôt...
Oui, mais elle est obligée d'être ouverte, parce que quand tu regardes aujourd'hui...
Oui, non, mais je suis d'accord.
Non, mais elle est obligée dans le sens où, si tu regardes, c'est quoi l'IA c'est quoi l'IA d'Amazon, il n'y en a pas.
Oui, mais
donc, avant, si à un moment, tu vas avoir cette conversation...
Avant, c'était assez fermé. Hein, comme...
Oui, mais c'est pour ça qu'on avait Alexa qui était...
Il nous reste 5 minutes, j'aimerais qu'on prenne un peu de hauteur, comme nous allions terminer sur la Lune, un peu de poésie dans ce monde de brutes, et nous intéresser à la NASA qui, véritablement, veut aller sur la Lune, et très vite. On parle de 2030, là, hein, c'est demain, a annoncé un plan très ambitieux, carrément faire une base spatiale, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais une base lunaire qui ferait des milliers de mètres carrés, c'est-à-dire que ça me fait penser à Cosmos 1999, cette série qu'on regardait quand on était petit, Fred, et où il y avait ces bases lunaires qui étaient immenses, et ben voilà, ça arrive 50 ans.
Et on s'imaginait qu'en 1999, ce serait ça.
Ben voilà, c'était pas arrivé, finalement.
Les voitures volantes...
Il a fallu attendre 50 ans. Ouais. Évidemment, ça nécessite énormément de partenariats avec diverses boîtes et juste un petit clin d'œil à Blue Origin qui a réussi à décrocher malgré tout des missions pour ce fameux projet de conquête de la Lune et je voulais avoir votre avis là-dessus parce que c'est intéressant de voir que évidemment on parle beaucoup d'Elon Musk et de Starship et de SpaceX mais voilà. Jeff Bezos est encore dans la course de l'espace et de tout ce qui touche à ce secteur.
Il n'a jamais cessé de l'être.
Non.
Hein, c'est des gros investissements, c'est un programme avec des partenariats.
Mais on voit qu'il a plus de mal avec Blue Origin que Elon Musk avec SpaceX, tu vois.
Mais c'est Kuiper, la constellation qu'il veut créer, si on reste dans le champ spatial, pas tout à fait la Lune, c'est la constellation, le concurrent finalement de Starlink.
Qui a été rebaptisé Léo d'ailleurs.
Qui a été rebaptisé Léo, tout à fait, c'est vrai. Mais c'est quand même Jeff Bezos qui est derrière. J'aurais du mal à me dire qu'il fait un gros fail et qu'il se rattrape avec Blue Origin sur la Lune. Moi, je pense que c'est quand même aujourd'hui un des hommes les plus crédibles sur les conquêtes auxquelles on assiste ou le futur de la conquête. C'est aujourd'hui le bras armé quand même de la NASA. Hein, tous ces
contrat
jeunes
d'un milliard hein, avec la NASA.
Voilà, c'est la NASA toute seule peut pas faire sans eux aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. Peut pas faire sans Amazon, peut pas faire sans Musk.
Non, mais ils font avec SpaceX. SpaceX est l'un des partenaires, si tu veux.
Non, pas sur la Lune.
Ah bah, il y a Artemis, quand même. Je crois que Starship, ça,
oui.
Artemis. Hein.
Oui, parce que le vaisseau qui aidera les astronautes à venir atterrir sur la Lune, ce sera SpaceX qui le transportera.
Oui, voilà. Donc ils sont tous. En fait, on a l'impression que la NASA
a partagé. C'est un consortium.
Voilà. Mais enfin, en tout cas, Jeff Bezos est toujours dans la course, Fred.
Non. Ce que l'on voit, moi, je trouve, c'est que ça y est, la Lune, avant, c'était la recherche scientifique, c'était voilà la conquête.
Plus symbolique qu'autre chose, finalement.
Le côté humain, voilà, on imaginait faire quelques expériences. Et là, on se rend compte que peu à peu, c'est en train de devenir un enjeu économique, un enjeu géopolitique, parce que ce qu'il faut voir derrière, pourquoi ils accélèrent les États-Unis.
Parce que la Chine.
Un peu comme l'effet Spoutnik des Russes, c'est que les Chinois sont en train d'avancer. D'ailleurs, j'ai vu un truc incroyable, ce sera à creuser. Les Chinois, ils veulent envoyer des cellules souches humaines, des embryons humains, dans l'espace pour voir comment ils se
développent.
Ouais, là je me dis oula, on commence à rentrer dans la science-fiction, tu sais, des gens qu'on envoie à bébé.
Là en matière d'éthique, on laisse tomber. Et ça sert à rien.
Et dans 30 ans, ils
sont envoyés du vin déjà dans l'espace, c'est Nicolas Gaume qui
fait
ça.
Oui, c'est vrai, tu as raison.
C'est un Français qui fait ça.
Le vin, et même le vin spatial, il faut le boire avec modération, tu sais, la télé, la radio, comment ça marche.
T'as goûté, t'as eu cette chance.
Non, mais ce qu'il faut voir, c'est où est-ce que l'Europe va réussir à se situer là. Donc on arrive dans la dernière mission là de qui a fait le tour de la Lune, là, pour préparer justement Artemis, on avait un module fait par l'Agence spatiale européenne, le module de vie. Donc, il faut voir où nous, on va se situer tout ça. Mais voilà, on sent qu'il y a une vraie bataille qui est en train de se mener, technologique, ouais. Géopolitique.
Et puis, rappelons que c'est l'entraînement pour après aller sur Mars.
Un jour.
10 ans viendra. Plus tard, sans doute.
Il y a juste, si je peux me permettre, un truc, moi, qui me fascine dans cette course de l'espace, c'est quand tu regardes, ça reste des anciennes boîtes tech de la Silicon Valley, et tu vois en fait que c'est en train de se déplacer non seulement vers l'espace, et là j'étais avec une autre boîte où on parlait de ça aussi, vers le militaire. Tu vois. Et en fait, cette Silicon Valley, elle est de plus en plus sur des trucs hyper stratégiques, là où avant c'était pas la même mission.
C'est la DARPA qui avait le lead, mais là c'est inversé. Mais ça s'est fait sur les subventions publiques quand même.
Ouais, mais c'est fou de te dire que maintenant en fait tout ça, aussi bien dans le militaire que dans l'espace, c'est des boîtes privées en fait qui étaient. Je sais pas si vous voyez Enduril par exemple. Vous voyez Enduril avec le patron d'Enduril, c'est quand même celui qui a fait Oculus. Qui a vendu ça à l'État. Maintenant, il fait du militaire, tu vois.
Il fait du militaire.
Et tu te rends compte que.
C'est quand même créé sur des investissements militaires au départ.
C'est qu'en fait, avant, quand tu allais dans la Silicon Valley, encore une fois, tu sais, j'ai passé beaucoup de temps, c'était pas les mêmes objectifs. Là, tu as des objectifs qui sont.
Oui, on est passé du flower power à la. La military power, quoi.
La military power à la conquête de l'espace, quand même.
C'est vrai. Bon, allez, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Marion.
Merci François.
À très vite.
À bientôt.
Oui, Marion Moreau, journaliste et fondatrice d'Ornor Media. Si on se revoit pas d'ici Vivatech, bon Vivatech.
Ah oui, mais merci à toi aussi. Sur le stand du CNRS, venez nombreux.
Écoute, on viendra avec plaisir. CNRS, toujours passionnant. On adore avec Fred s'intéresser aux innovations du CNRS. Merci beaucoup à Salim Nassur, fondateur de Mars avec 2A.
Merci.
Et merci à toi, Fred.
Au demain.
On se retrouve demain, bien sûr, pour commenter l'actu.